Le journal Lievin Mbwinga. Les titres de ce journal, près de 200 expats basés à Pointe-Noire optent pour leur retour en RDC après 8 ans d'exil. Ils ont d'ailleurs protesté contre l'inertie des autorités. Dans ce journal également, les assurances du responsable de la structure militaire intégrée. Et puis l'administrateur intérimaire du territoire de Mureka au Kasaï occidental accusé de détournement des fonds de péage par la société civile locale. L'argent est perçu sur le tronçon Mweka-Misumba pour sa réfection. Épidémie de rougeole dans le Bas-Congo avec ses chiffres qui effraient, 4600 cas enregistrés depuis le début de l'année et 64 décès. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Voilà pour les titres. Bonjour, les militaires des ex-forces armées zaïroises réfugiés à Pointe-Noire affichent leur impatience. Comme ceux de Brazzaville il y a un mois, ils réclament leur rapatriement à Kinshasa. Selon leur témoignage, rien n'est fait pour leur retour en RDC. Ces soldats ont manifesté il y a une semaine pour exprimer leur mécontentement. Mais ils ont été repoussés par la police de Pointe-Noire dans un village à la frontière angolaise. Ils sont un effectif de 244 militaires avec leurs familles. Notez également que ces ex-FAS sont exilés en République du Congo depuis 8 ans après le départ du président Mobutu. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un capitaine. Ngwanda Terminator a été joint par Ramambaye.
Nous sommes impatients. Je crois que ça fait 8 ans que nous sommes en exil, mais on ne rend plus compte de nous. On ne sait pas si l'exil c'est l'opposition ou l'exil c'est la protection. Nous ne sommes pas des opposants. Nous sommes venus en exil pour se protéger. Alors dès que l'été est là, nous sommes des pays, on a le droit de rentrer chez nous. Nous avons des femmes, nous avons des enfants. Là on est devenus malheureux. Pourquoi? Nos frères qui étaient en Brazzaville sont déjà retournés à Kinshasa. Pourquoi pas nous qui sommes à Pointe-Noire? C'est pour cela le dimanche passé, les militaires vraiment ont voulu réclamer leur droit. Que notre gouvernement congolais de nous envoyer les moyens pour nous rapatrier et de rentrer chez nous d'aller travailler. J'espère que je suis passé déjà avec les officiers. Et nos femmes sont vraiment présentes avec moi.
Réponse de la structure militaire intégrée qui rassure. Pour le colonel Emim Biato, il n'y a pas d'inquiétude à observer. Le programme arrêté pour le rapatriement des ex-FAS va s'étendre même en dehors de Brazzaville, dans des villes comme Pointe-Noire. Il est également joint au téléphone par Ramambaye. On l'écoute.
Je puis vous confirmer qu'il y a tout un programme qui a été mis sur pied, lequel programme a commencé par Brazzaville, et donc certainement que ça va s'étendre jusqu'à eux. Nous avions eu une séance de travail avec nos collègues de l'autre côté, et à l'issue de ce travail, donc il a été demandé aux collègues de l'autre côté de continuer à identifier tout autre ex-FAS qui n'était pas dans la ville de Brazzaville et qui n'était pas venu avec nous ce jour-là. Je suis sûr que nos collègues sont en train d'identifier les ex-FAS qui sont en dehors de Brazzaville et entre autres ceux qui sont à Pointe-Noire. Donc il n'y a pas d'inquiétude à observer ce côté-là de leur part.
Au moment où des ex-FAS désirent regagner le pays, une quinzaine de miliciens de l'ex-front de résistance patriotique de l'Ituri sont arrivés hier dimanche à Bunia. Ces miliciens se sont rendus vendredi aux éléments des forces armées de la RDC à Kagaba. Ils soutiennent que leur chef Angoulouma a pris fuite lors des combats dans la vallée de la Similiki et les a abandonnés. Plus de 800 miliciens ont volontairement déposé les armes depuis le lancement des opérations militaires en octobre dernier. Gisèle Cage a rencontré le groupe de miliciens, suivez son reportage.
Les 17 miliciens de l'ex-FRPI sont arrivés ce dimanche à Bunia sous escorte des FRDC. Ils sont venus de Aveba, un secteur sud du territoire d'Irumu, où était installé leur quartier général sous le commandement du chef Angoulouma. D'après leur déclaration, ils se sont rendus volontairement au FRDC à Kagaba après avoir été pris en étau par les forces gouvernementales dans la région des Similiki. Éparpillés et coupés de leur zone de ravitaillement, voilà ce qui a motivé leur décision de rendre leurs armes au FRDC, comme nous l'a déclaré l'un d'eux.
Toute la force qui était sur le lac Albert se sont éparpillées. Alors, en voyant cela, je me suis décidé de regrouper les groupes avec GT et venir auprès des autorités militaires qui se sont réunis à Kagaba.
Ces miliciens nous ont déclaré que plusieurs d'entre eux ont pris refuge dans les forêts. D'autres, par contre, ont fui vers l'Ouganda depuis que les FRDC sont à leur poursuite. Leur chef Angoulouma aurait pris fuite vers une destination encore inconnue. Ce chef est recherché notamment pour enlèvement, viol et exécution. Les responsables militaires à Bounia parlent d'un bilan plutôt positif des opérations militaires lancées contre les miliciens en Ituri. Selon Charles Boyeka, officier des liaisons à l'intérim des FRDC en Ituri, à ces jours, plus de 800 miliciens se sont rendus au FRDC. Sur le terrain, d'autres miliciens résistent encore à l'avancée des troupes FRDC. Il s'agit notamment de ceux dirigés par Oudaga Dipiter Karim du Front nationaliste et intégrationniste FNI dans la région de Nyoka, dans le territoire de Mahagi. Gisèle Cage, Bounia, Radio Okapi.
L'insécurité se porte bien à Zongo, ville du nord de l'Équateur. Exercer le commerce ou transporter ses produits vivriers constitue un danger permanent dans cette ville située à 800 km de Mbandaka. Des hommes en uniforme ravissent les biens des populations devant cette difficulté. L'autorité administrative s'en remet à la hiérarchie pour le remplacement sans délai de ceux que l'on considère comme des inciviques dans cette partie de la République démocratique du Congo. Éclairage avec Béatrice Nabindi Mboyo.
Selon le maire de Zongo, Fabien Ibanda, des hommes en uniforme positionnés le long de la rivière Ubangi, à la frontière de la RCA, braquent fréquemment ses administrés à qui ils extorquent argent et biens. Il y a deux jours, il a reçu les rapports du bourgmestre de la commune de Wango faisant état de l'arrestation arbitraire de 4 personnes par des hommes en uniforme. Ces éléments de FRDC leur ont ravi 4000 francs CFA ainsi que toutes les marchandises avant de les laisser partir. Par ailleurs, le président de la société civile de Zongo, qui confirme les faits, dénonce également des tracasseries récurrentes des militaires basés à Worbe, village à 15 km de Zongo vers la localité de Libenge. Ces militaires continuent encore à exiger la ration alimentaire aux passants comme du temps de la guerre. Pour sécuriser la population, le maire de Zongo n'a qu'une solution, que la troisième région militaire en Mbandaka remplace ses militaires par d'autres éléments plus disciplinés. À ces propos, les commandants troisième région, le général José Mouloubi invite la population à la patience, car, assure-t-il, bientôt ce bataillon sera évacué de Zongo pour le brassage. Mbandaka, Béatrice Nabindi, Radio Okapi.
Et puis deux ministres belges attendus ce lundi à Kinshasa. Il s'agit de Armand Dedeker de la coopération au développement et André Flao de la défense. Pour l'ambassadeur de la Belgique à Kinshasa, ces deux ministres arrivent en RDC pour non seulement soutenir la transition, mais aussi pour faire le suivi des projets qui existent actuellement entre la Belgique et la RD Congo dans le domaine de la coopération. Yohann Sunen est interrogé par Dona Madimba.
Le ministre Flao de la Défense et le ministre Dedeker de la Coopération et Développement ne manqueront pas de souligner l'engagement de la Belgique d'un côté de continuer à équiper, à soutenir l'intégration de l'armée. Le ministre Flao se rendra par exemple à Kalemi où un grand volume de matériel est en train d'être débarqué pour soutien logistique et de transport à la 3e brigade. Et le ministre Dedeker, de son côté, signera certains accords de coopération, notamment dans le domaine de l'agriculture, de la santé. Mais bien sûr, il soulignera également tous les efforts qui seront encore déployés dans le domaine notamment de l'infrastructure, mais aussi de l'enseignement.
L'administrateur intérimaire du territoire de Mweka au Kasaï occidental dans le collimateur de la société civile locale, il est accusé de détournement de fonds perçus au péage installé sur le tronçon routier Mweka-Misumba pour sa réfection. D'après la société civile, les cantonniers vrais destinataires de ces fonds ne perçoivent rien du tout. Ce n'est pas tout. Ce tronçon routier n'est pas entretenu selon toujours cette structure. Conséquence, l'approvisionnement de Mweka en produits vivriers a sensiblement diminué, comme l'explique André Kambal.
Financé par le BESECO, le tronçon routier Mweka-Misumba via Mbelo, long de 103 km, a été réhabilité par le diocèse de Mweka pour la desserte agricole de la contrée. Pour son maintien en état, les autorités ont placé un péage sur le pont Lutiadi et Lekedi et sur le bac à Mbelo, péage dont le fonds devait servir à la paye mensuelle des cantonniers. Selon Évariste Boucheb de la société civile de Mweka, tous les efforts du comité local d'entretien des routes claires en sigle pour payer les cantonniers restent vains. Victor Mingachanga qui assure l'intérim de l'administrateur du territoire, interdit aux clercs de payer les cantonniers. Il exige le versement quotidien de ces fonds dans les caisses du territoire. Fausse accusation, rétorque l'incriminé. Nestor Mingachanga note que les fonds sont gérés par le comité local d'entretien de route dans un compte à la CADECO. Le territoire ne s'y meule point. À chaque péage, le montant de frais de pont, de moyens de transport, il varie de 100 francs congolais pour les piétons à 1500 ou 5000 francs congolais pour le véhicule selon la charge. Kananga, André Kambala, Radio Cap.
À Kisangani, c'est plutôt la division provinciale de l'environnement qui est pointée du doigt par les exploitants forestiers artisanaux. Il lui est reproché d'être à la base de la hausse exagérée de la taxe de permis de coupe. La division de l'environnement est également acculée par les communautés locales qui l'accusent de pillage de leurs ressources forestières. Ils affirment ne pas profiter de ses propres ressources. Pour la division provinciale de l'environnement, la loi est dure, mais c'est la loi. Tous ces accusateurs doivent se conformer à la loi s'ils veulent être protégés. Récit de Anselme Massoua.
Selon certains responsables des communautés forestières, la division provinciale de l'environnement se comporte en tyran depuis le début de cette année en cours. Elle délivre des autorisations de coupe de bois aux particuliers sans pour autant leur demander de se conformer aux obligations des responsables des communautés forestières. Les exploitants artisanaux, quant à eux, dénoncent la montée en flèche de la taxe de coupe de bois. En une année, disent-ils, celle-ci a subi trois modifications, suivant l'un d'eux.
Avant, on payait la taxe annuelle, c'était à 10 dollars, les abattis qu'ils tirent. Quelques mois après, on dira que non, ce n'est plus 10 dollars, c'est 50 dollars. Au moment où je vous parle, on nous demande 150 dollars pour les abattis qu'ils tirent.
Pour le coordonnateur provincial de l'environnement récemment nommé, fini la récréation, c'est la loi qui fixe tout. Tous ces accusateurs n'ont qu'à obéir s'ils veulent fonctionner librement. Guillaume Somoué, Kiasula.
L'État ne peut pas vous autoriser d'exploiter comme ça, sans que tu puisses la mettre en règle.
Les gens qui viennent chez nous prétendre que nous sommes les ayants droit, ils doivent avoir d'abord les documents, ils les reconnaissent comme les ayants droit. Et ils sont en train de se plaindre. Est-ce qu'ils ont en règle d'abord? Mais ils ne peuvent pas se plaindre. S'ils ne sont pas en règle, ils ne sont pas en règle, c'est tout.
Les exploitants artisanaux pensent que si cela continue ainsi, avec multiples tracasseries militaires qu'ils subissent, ils risquent de fermer leurs activités et c'est la ville qui va manquer de bois de construction. Kisangani, Anselme Massoua, Radio Okapi.
Nous ouvrons le chapitre santé avec l'épidémie de la rougeole qui continue à faire des ravages dans le Bas-Congo. 4600 cas enregistrés aussi bien dans des villes que dans des campagnes à ce jour. Depuis le début de l'année, au moins 64 cas de décès ont été enregistrés, déclarent les autorités sanitaires de la province. D'après le chef du bureau 4 chargé de la surveillance des maladies au niveau provincial, la persistance de cette épidémie dans le Bas-Congo est surtout liée au mouvement migratoire des populations. Explication avec Pélé Kipelamondo depuis Matadi.
Toutes les zones sont atteintes. Les plus touchés sont Kimpese avec 669 cas et 12 décès, Lukula, Sekibanza et Sonampango. Les grands centres ne sont pas épargnés. À Matadi, par exemple, une soixantaine de nouveaux cas sont enregistrés chaque semaine, suivis des Boma, Mbazangungu et Kisanto. Au titre des actions menées sur le terrain pour essayer d'enrayer l'épidémie, les docteurs Denis Lemba parlent d'abord de la mise sur pied des comités de lutte contre la rougeole au niveau des bureaux centraux de zones et autres districts. Ces comités sont pilotés par les autorités politico-administratives provinciales. Leurs membres sont issus de tous les secteurs, ecclésiastiques, éducatifs, médiatiques et sanitaires. Tous les médecins chefs des zones ont été formés en surveillance épidémiologique. Tous les médecins chefs des districts ont été, quant à eux, instruits pour ouvrir des centres d'isolement au niveau des hôpitaux pour la prise en charge des personnes atteintes. Cette prise en charge est assurée par des équipes d'intervention rapide mises en place dans les hôpitaux. Les traitements restent gratuits car les médicaments ont été disponibilisés par les partenaires en santé telles que la coopération technique belge, l'OMS, Sanrou 3 et autres. Des Matadi, Pélé Kipelamondo, Radio Okapi.
Situation sanitaire également préoccupante dans la capitale du Cuivre, plus au sud du pays. Plus de 850 cas de fièvre typhoïde auraient été enregistrés à Lubumbashi en moins de 3 mois. Des chiffres fournis par le bureau de l'inspection provinciale de lutte contre la maladie dans le Katanga. Mais l'OMS antenne de Lubumbashi, qui travaille en partenariat avec la cellule de surveillance des maladies, semble douter de la véracité de ces statistiques. Deux avis contradictoires qui laissent la population perplexe. Suivez le docteur Luimpia, médecin épidémiologiste et chef d'antenne de l'OMS Lubumbashi.
La fièvre typhoïde, c'est une maladie grave qui entraîne des complications de décès. Et parmi ces cas, on n'a pas de décès. Nous avons vraiment la suspicion que tous ces cas-là, ce sont des rumeurs. On ne peut pas dire que ce sont des cas de fièvre typhoïde. Ce que nous voulons, que la démarche soit, disons, scientifique. On passe par l'examen clinique, la confirmation du laboratoire et la prescription d'un antibiotique adapté à la maladie.
Pour leur part, les centres hospitaliers de la ville de Lubumbashi soutiennent que le cas des fièvres typhoïdes qu'ils ont diagnostiquées sont réels. À l'étranger, quelques 560 000 Gabonais étaient appelés aux urnes hier dimanche pour une élection présidentielle à un tour qu'Omar Bongo, doyen des chefs d'État africains, semble assuré de remporter. Le dépouillement a débuté hier soir dès la fermeture des bureaux de vote. D'après des résultats préliminaires récoltés dans la capitale Libreville, Bongo dispose d'une large avance sur ses concurrents.